Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés. Bonjour.
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 C'est dans le numéro 19 de la revue Les Refusés consacrée à l'air du temps que nous avons choisi les trois nouvelles que nous allons vous lire aujourd'hui. La première, intitulée « La mise à pied », a été écrite par Julien Beneteau, journaliste de la presse locale. Il y a 20 ans, Julien écrivait un article sur Les Refusés et peu de temps après, rejoignait le groupe et nous proposait depuis régulièrement ses nouvelles.
RCN, quelles sont les nouvelles ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Ce sont les voix de Patricia, de John
et d'Evelyne
qui vous accompagneront dans cette émission. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde a de la chance. J'ai vu les flammes. J'ai dit, ça y est, ça recommence encore. On n'était pas parti longtemps. On devait tondre les moutons après le repas. On venait de se laver les mains. On allait prendre l'apéro. Ma femme était dehors. Elle a entendu le bruit. Elle croyait que c'était l'eau qui coulait là-haut. Elle nous a appelés. J'ai essayé d'éteindre comme je pouvais, mais c'était pas possible. Tout avait pris feu. Ce doit être un court-circuit, la rallonge ou la tondeuse pour les moutons. Le tondeur, il avait garé sa voiture sous le hangar. Il a essayé de la sortir, mais il n'y est pas arrivé. Il avait les cheveux qui chauffaient. Il est vite ressorti. On a réussi à écarter les moutons, mais c'était trop tard pour les lapins. J'entendais de petites explosions. Les pompiers m'ont dit que c'était les cages qui se dilataient. Ils sont arrivés vite, mais ils ne pouvaient rien faire. Je venais de finir la pièce propre pour tuer les lapins. On devait faire le béton cette semaine. Maintenant, il y a ça. Ces restes. Du bois, de la tôle et des lapins carbonisés. Je le vois dès que je sors de la maison. J'ai envie de rien faire, de rester à dormir. J'ai hâte que l'expert passe, on pourra tout nettoyer. Là, ça fait de la peine. On allait commencer à en profiter. Ce hangar, j'avais commencé à le construire il y a tout juste un an. Je me rappelle, on avait lancé les travaux le lundi de Pâques. Je n'ai pas fait ça par hasard, il fallait bien que je fasse quelque chose quand j'ai été mis invalide. Je n'allais pas regarder la télé toute la journée. Et puis, j'aime pas trop la télé. Je préfère être dehors. Parfois, j'aimerais bien prendre mon pied dans cette vie, vraiment. Le prendre et le jeter. Je suis née avec un pied beau. J'ai toujours vécu avec, il fait partie de moi. J'allais pas l'écouter, hein. On joue comme un pied, on peint comme un pied, on n'écoute pas son pied. Si je l'avais écouté, j'aurais jamais rien fait de ma vie. Le pied est mauvais conseilleur. J'aime les moutons. Alors, j'ai commencé à élever des moutons. Le mouton, c'était pas cher. Et j'arrivais à leur courir après. À 9 ans, j'étais le plus jeune éleveur de moutons de Meurthe-et-Moselle. Je faisais les bords de route pour les nourrir. J'ai essayé d'en faire mon métier. Mais c'est pas simple. n'y a pas d'agriculteurs dans ma famille. Nous, c'est plutôt EDF. J'ai eu le concours, j'ai pas voulu y aller. Mon pied et moi, on a commencé à bosser dans les travaux publics. Je boitais de plus en plus en rentrant du boulot.
« Qu'est-ce que t'as fait ?»
demandait ma femme. « Rien, je sais pas. Je peux même plus marcher. » Je tenais bon. À la fin, je montais à genoux dans la camionnette. Ça me tirait de plus en plus. Il a bien fallu voir le docteur.
« Oh là là, il y a du boulot !»
C'est ce qu'a dit le chirurgien, en voyant mon pied.
« Bon, je vais faire ce que je peux, mais je ferai pas de miracle, hein ?»
Il paraît que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, il y avait un sacré nid de poule dans le bitume. La première opération a raté. Je dis pas que j'espérais courir un 100 mètres, mais... On n'avait pas non plus besoin de m'enfiler les jambes dans un sac en me disant « Tiens, la sortie, c'est par là, cours maintenant !» Puis, il y a eu la deuxième opération, la troisième, la quatrième. Il y en a eu 11 en tout, avant que ça tienne un peu. Le patron, il était prêt à me reprendre. Il voulait bien attendre un an. Il voulait même bien que j'aille plus dans les trous. Je pouvais rester dans le camion ou conduire la pelle, mais il me fallait un permis. Je ne l'ai pas eu, mais je n'ai pas le temps de vous raconter ça. Quand j'ai pu reprendre le boulot, je suis allée à la médecine du travail. C'était un jeune. Il m'examine.
Hey, je vois. Bon, alors, il y a des choses à pas faire. Hein. Pas de terrain accidenté, pas d'escalier, pas accroupi... Pas longtemps debout et pas d'escabeau.
Je peux quand même conduire un camion.
Ah non, c'est trop dangereux de monter ou de descendre, mais vous pourrez faire des travaux de peinture.
Bah oui, les peintres, ils sont pas debout ou sur des escabeaux. J'ai été licenciée pour inaptitude. Plein d'inaptitude. J'étais inapte pour des dizaines de métiers. Je pouvais encore faire gardien de musée, présentateur du journal télévisé, vendeur de billets à la SNCF, star de ciné, président de la République. Peintre, je pouvais pas. Ouvrier du BTP, non plus. Intérimaire, guère plus. Mais je n'étais pas invalide. Je n'avais pas le droit de réclamer une pension. Je trouvais à peine de quoi bosser. Il fallait payer la maison, élever notre fille. J'ai fini par être embauchée. Ouvrier agricole. Ça oui, je pouvais. Il a juste fallu être un peu malin. Le médecin du travail m'a demandé pourquoi j'avais été licenciée. Faites votre visite médicale et je vous dis après. J'ai compris comment ça marchait. Ces médecins-là, ça a vite peur. Si les autres ont dit qu'ils pensent ça, mieux vaut faire pareil. J'ai été déclarée apte, sans aucune restriction. Cela a duré 2 ans, ce boulot. Il a fallu que je retourne me faire opérer. La 12e opération. 12. Je suis sûre que le monstre de Frankenstein n'a pas autant de coutures que moi. Pour l'instant, ça tient. Je dis ça parce que mon pied est encore là.
Bon, je suis désolé, mais la prochaine fois, il n'y aura pas d'autre solution que d'amputer.
M'a dit le chirurgien. Ce qui n'a pas tenu, c'est le travail à la ferme. J'avais trop mal au dos. La médecine du travail m'a déclaré invalide. J'ai une pension, une famille et une télé. Je pouvais passer ma vie entre tout ça. Ma femme avait un CDI, on s'en sortait. Mais je vous l'ai dit, J'aime pas trop la télé. J'ai pris des moutons, des lapins, des poules. Vendre des lapins et des œufs, c'est aussi pour voir du monde. Si tu ne vas pas aux gens, ils ne vieillent pas à toi. Des comme moi, une fois qu'ils ne servent plus à rien, on les oublie. Tu ne sers plus à rien, tu n'es plus rien. C'est la même pensée que quand tu vas à un enterrement.
C'était le meilleur d'entre nous.
Valait mieux le dire quand il était encore vivant. Là, c'est pire. Tu n'es pas mort et tu assistes à ton enterrement. C'est jamais simple d'assister à son enterrement. C'est comme dans une soirée où tu as été invité par un pote. Personne ne te connaît. On se demande toujours qui tu es exactement. Les animaux, je faisais ça pour avoir un but. Avec les lapins, vous gagnez rien. Mais j'avais des commandes. Il y a même des clients qui m'ont avancé de l'argent pour le hangar. Quand je les regarde, c'est ruine de vie. Économiquement, il vaudrait mieux pas que je reconstruise. J'ai mis 8000 euros là-dedans, sans compter tous les outils. J'en ai récupéré quelques-uns, c'est mon père qui me les a prêtés. Parce que j'avais même plus de quoi visser un boulon, sinon. Par quoi je peux commencer? Ma femme, elle veut que j'arrête tout.
Tous les ans, on a une tuile,
elle dit. Moi, je sais pas. Même la malchance, elle doit bien finir par fatiguer.
La musique d'Avishai Cohen, Song for My Brothers, accompagnait cette nouvelle. Et voici maintenant le Malotru, une courte nouvelle écrite par une autrice, Sophie Cataneo, elle aussi très présente dans les publications des Refusés. Alors nous avons choisi l'introduction du CD, la grand-messe des cow-boys fringants, pour rythmer ce texte.
J'étais sur le terrain en train de faire des prélèvements quand un gros 4x4 ronflant s'est arrêté en pétaradant tout au bord du lac dans un nuage charbonneux. Le bonhomme sort de son véhicule, clope au bec, s'étire en soupirant et me jauge d'un œil torve. Puis m'aborde sans détour.
« Bonjour mademoiselle !»
Je décide de l'ignorer.
« Vous cherchez des vers de terre pour la pêche ? » ?»«
Non, pas vraiment. Je mesure le taux d'azote dans le substrat. » »«
Ah, intéressant. Et c'est quoi un substrat ? » ?»«
Je vous prie de me laisser travailler si ça ne vous fait rien. Là-dessus, il laisse tomber son mégot à ses pieds, l'écrase et s'en retourne en marmonnant
« Oh, quel pain bêche !»«
Quel gros crado ! Je ne peux pas m'empêcher de réagir. » Dites donc, ça ne vous dérange pas de balancer votre clope dans la nature ?
Bah, ça craint rien, je l'ai éteinte. Puis, avec l'humidité qu'il fait, hein, ça risque vraiment pas de flamber.
Je crois rêver. Il ne s'agit pas de feu. Savez-vous en combien de temps se désagrège un filtre de cigarette en terre ?
Bah, je me demande bien ce que ça peut me foutre. Hein. Vous allez quand même pas me dire ce que j'ai à faire, non ?
Ce site est une réserve naturelle, monsieur, placée sous la protection de l'ONF, dont je suis une représentante, figurez-vous. Mmh. Vous pourriez prendre une amende pour ça.
Oh. Ah, c'est beau, une femme en colère.
Ah, je ne relève pas cette remarque pathétique, mais j'enchaîne. Vous n'avez pas de cendrier dans votre voiture ? Il se baisse vers son mégot. Soudain, je reprends foi en l'humanité. Finalement, j'ai raison de militer. Je ne m'épuise pas dans le vide. Mon action a du sens. Le monsieur prend son immondice entre le pouce et l'index, puis le balance dans le lac et me déclare.
Et voilà, ma petite dame. C'est mieux comme ça, non ?
Quel sinistre con irrécupérable. Le pire, c'est qu'il n'a sans doute pas fait ça pour me provoquer. Je devine à son air débonnaire et satisfait qu'il pense sincèrement à avoir eu le geste approprié, ce malotru.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
La troisième nouvelle, Misty Sleeping, a été écrite par Max O'Bion. Auteur de polar, scénariste et réalisateur de courts-métrages, co-éditeur de Ska Numérique, il trouve cependant toujours le temps de répondre à nos appels à projets. Ce qui explique que vous avez déjà entendu très souvent son nom dans la programmation de l'émission.
Sur son bras nu, posé sur la coudoir, court un fin duvet brun. Elle dort. Ah, comment fait-elle pour dormir par une chaleur pareille ? Je suis des yeux le filet de sueur qui s'échappe de son aisselle. Des gouttes suivent ce court chemin. Quelques poils d'habitude exubérants au creux de son bras forment des pointes. L'auréole mouillée à l'échancrure de sa robe à fleurs s'accroît. Sa respiration est régulière parfois. Elle émet un souffle plus important qui soulève légèrement sa poitrine. Sinon, je pourrais croire qu'elle est morte. Encore, sa tête est presque à la renverse, posée sur le haut du dossier du fauteuil rouge. Ah, ses cheveux noirs ont poussé et ils pendent par paquets. Une boucle accroche son front où s'agglutinent des perles. Je vois ses longs cils qui ombrent le creux de ses yeux clos. Deux petites veines bleues filent sous la peau transparente de sa tempe. Et sa bouche est un peu entrouverte. Ses lèvres sont sèches. Elle ne pointe pas sa langue rose que je regarde quand elle me lit la guerre du Péloponnèse. Une fois en grec, une fois en américain hésitant, elle pousse sa voix doucement, on dirait de la musique, et c'est bien. Elle raconte aussi
les farces de Zeus, ça s'appelle la mythologie, des histoires incroyables. Ouais, tante Mitzi dort cet après-midi à cause de la chaleur. Elle a croisé ses jambes fines et l'ourlet de sa robe remonte au-dessus de ses genoux. Sa main tient une lettre, prête à tomber de ses doigts. Je meurs de chaleur. Ah. Du divan sur lequel je cuis, en caleçon, maillot de corps trempé, je regarde ses orteils. On dirait des petits os, chaussés de gants en peau. Elle est chez nous depuis 4 ans déjà. Elle est si discrète, elle se place dans les endroits de notre logement où elle sait qu'elle ne gênera pas, de peur, elle a toujours peur. Oh. C'est le Zio qui l'a ramenée à la maison, une fois démobilisée d'Allemagne. Oh, l'air est blanc dehors. Maman a ouvert toutes les fenêtres, baissé à moitié les stores en rouleur et elle a dit...
Il faut de l'air.
Oh, mais il est chaud ton air.
Peut-être, mais il faut de l'air. Bouge le moins possible. Regarde tante Misty. Et dans le vrai, elle dort, elle.
Oui. Et toi, môme?
Ah, quand j'aurai fini.
À défaut d'air, la lumière s'infiltre. Une lumière brûlante. Total, on récupère et la fournaise, et le bruit du dehors, et les odeurs de la rue. Et si au moins elle organisait des courants d'air. Bon, elle a bien essayé d'ouvrir la porte du palier, mais les gens qui montent ou qui descendent les escaliers, ils lorgnent chez nous. Sans compter la marmaille qui stationne et nous reluque comme si nous étions des bêtes curieuses. Même le pouilleux là, du 5e, il demande n'importe quoi pour s'inviter à boire de l'agneau, là, sous prétexte qu'il vient de Barry, hein, comme le père du Zio. Non, par ce temps, on se demande à quoi ça rime de picoler. Alors, môme a bouclé la porte. Et nous, on crève toujours de chaud. Hier, le ventilateur a rendu l'âme qu'il avait pourtant bruyante. Dommage. Sauf qu'un léger souffle sur la peau nous valait des oreilles martyrisées tant il couinait. Ah, je regrette quand même le tournement de son hélice. Combien de fois elle a tourné au bout du nez de mon zinc. Combien de fois moi j'ai attaqué en piqué les positions débridées qui nous font la guerre. Môme se déplace pieds nus sur le parquet. Elle prétend que ça rafraîchit. Des fois, j'ai des doutes sur la sagesse de môme. Elle continue à fourgonner ses bassines, à tourner sa pâte, les mains dans la farine. Elle aussi, elle est en âge. C'est dans ces circonstances que je devine la poitrine de ma mère sous son caraco. Môme, d'habitude si pudique, elle a mis le beurre dans une cuvette remplie d'eau. Elle tord le linge à sécher, puis après, quand elle aura fini de ravauder mon pull de laine, elle s'enfermera dans la chambre du bout. Là, elle lancera son disque de Mario Lanza sur le phono. « Be my love ». Elle pensera à Russell, mon salaud de père, en tirant sur une Lucky Strike. Je m'ennuie, mais j'ai peur de prendre une calotte si je bouge. Ah, ça y est, Mario Lanza pousse sa chanson. Môme dit que cette voix, elle lui fait des frissons dans le dos. Quand elle sortira, ses yeux brilleront encore de larmes. Je devine pourquoi, mais je ne veux pas. Dire qu'il y a des gens enfermés dans leur voiture sous ce soleil. Ah ! Au loin, il y a la sirène d'un cargo en partance qui meugle. Ouais, comme il doit faire bon sur les quais du port, au moins l'océan, il apporte quelques brises qui consolent de la canicule. À l'opposé, on entend le bétail mugir. Les abattoirs, ils sont situés à deux rues au nord de chez nous. Ils parquent les bestiaux pendant des jours avant de mourir, et sous le cagnard en plus. Ah, la puanteur de leur merde nous parvient par moments. Remarquez, c'est pas pire que celle qui vient des cabinets bouchés des Horvitz, juste en dessous de chez nous. Rien que de penser au sang chaud qui jaillit de la gorge tranchée des animaux, ça me donne envie de vomir. Mamie, elle dit que c'est pas humain, des choses pareilles. Et tante Misty dit qu'elle est d'accord avec maman. Elle est toujours d'accord avec maman. Même quand Mom la dispute parce qu'elle veut rien manger. Tante Misty, elle dit avec son accent, en rognant les mots sur lesquels elle bute encore.
« Mon ventre va exploser. »
Oui.
« Il faut vous retaper, ma petite. Vous comprenez? Vous remplumez. Regardez-moi ces jambes toutes maigres. Et vos joues. Hein? Vos joues. » Guido, il aime les bonnes joues bien rondes, bien roses.
C'est le refrain de ma mère. Bien ronde, bien rose. Elle aime bourrer les corps de pâte à choute. Hein. Alors tante Misty, elle lui répond par un gentil sourire qui suffit à clouer le bec de môme. J'ai même pas la force de finir mon illustré. Pourtant, j'aimerais bien savoir si dedans mon drac ira délivrer princesse Elidora de l'infâme Iarchos. Ah, ça y est, Mom est revenue. Elle chantonne à voix basse maintenant. Je reconnais bien la chanson que j'ai écoutée hier chez les Horvitz, deux étages plus bas. Funny, funny time, marvelous time, sunny time. Ils ont la radio. Puis ils ont aussi Becky. Leur fille, qui est rudement jolie. Elle traverse mes rêves depuis deux nuits. Moi, j'aime bien la radio et Becky aussi. Enfin, je crois. Leur radio compense largement leurs problèmes de cabinet. Le bras de tante Misty s'est abandonné. Il pend désormais hors du fauteuil, laissant voir son intérieur, l'intérieur de son avant-bras. Bah, elle a toujours ce vilain bouton qu'elle dissimule sous du sparadrap. T'as toujours ton bouton ? Que je lui ai souvent demandé, mais sans jamais obtenir de réponse. Oh, le pansement, c'est pas grave, parce que sa couleur presque blanche s'accorde avec celle de la peau de tante Misty. On n'y fait même plus attention depuis le temps. Ses doigts se sont abandonnés. La lettre vient de tomber sur le parquet. Je tends le bras pour me saisir du papier. Son odeur de transpiration me saisit. C'est pas la même odeur que celle de maman. Encore une découverte. Mais j'aime beaucoup son odeur. Bon, je suis assez curieux de savoir ce que le zio lui raconte, s'il parle de moi. Il y a un tampon à moitié lisible en haut de la feuille. Je parviens à déchiffrer 8e armée. Mais normal, le courrier en provenance de Corée est contrôlé des fois. Des fois que Colzio serait un espion communiste. Mom, elle dit que les Japs, faut les zigouiller. Faut les zigouiller jusqu'au dernier, comme les nazis. Mom, elle n'est pas regardante. Hein, elle confond les Japs, les Chinois, les Coréens, les nazis, ceux du Nord, du Sud. Elle s'en moque. En revenant sain et sauf de la guerre contre les nazis, Guido a rempilé. Maintenant, il est trophion supérieur à ce qu'il dit en rigolant. Non, son grade exact, c'est major, chef de quelque chose. Enfin, un truc dans le genre. Ah, il y a plusieurs mots qui sont rayés d'un trait noir, très gras, baveux. Je lis. Mais chérie, ta dernière lettre, là, je l'ai lue de retour au camp. Ah, j'ai pas le droit de le dire. Je suis content que ta santé s'améliore. La fatigue finit là bien, papa-t-il un jour. J'espère que Tonino est gentil avec toi. C'est encore un gamin, mais il a un bon fond. Je te promets que nous nous marierons à ma prochaine permission. Ici, les combats sont acharnés dans la poche de... Et là, non plus, j'ai pas le droit de le dire, mais on les a là. On va les rejeter dans la rivière. Dis à ma sœur que son chandail me va bien. Les manches sont un peu courtes, mais il est bien chaud.
Tante Misty remue un peu et j'ai sa lettre dans les mains, mes mains moites qui mouillent le papier fin.
Non, elle ramène son autre bras sur sa poitrine et l'autre pend toujours. Elle remue légèrement, très légèrement les doigts. Si elle se réveille, bah, il suffira de jeter la lettre à terre. C'est bizarre, tiens, le pansement s'est un peu décollé. Par un bout, je me penche à la... Un chiffre dépasse, écrit sur sa peau. Ah, et à l'extrémité d'un chiffre, je lis 37. Ah, je vois les extrémités d'un autre chiffre, ce serait bien... Ah oui, c'est un 5.
Mom me surprend et elle me houspille à voix basse.
Oh, tu veux des lunettes?
Vite, je fais rouler mes petites voitures en fer sur le lit. Si j'insiste, Mom va me rembarrer. Une torgnole est si vite arrivée. Bon, je me renfonce sur le divan contre le mur.
Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? J'ai vu au cinéma dans Alerte aux Caraïbes une fille qui avait un cœur tatoué sur l'épaule. Mais des chiffres sur le bras, comme tante Misty, à quoi ça rime? Ah, elle me surprendra toujours. C'est inoriginal. Elle est toujours plongée dans ces énormes livres remplis de lettres bizarroïdes. Vous voyez, des lettres d'un alphabet pas comme le nôtre. Quand elle a terminé sa lecture avant d'écrire des pages et des pages sur des cahiers, elle me parle de la grandeur de l'âme, du sens de la grandeur humaine, de Thucydide, de Sophocle, des noms comme ça, et puis d'autres aussi que... Ah, j'ai oublié les noms, mais... J'ai du mal à comprendre, mais je ne lui dis pas. Hein. Dans ces moments-là, je la reconnais pas vraiment. Elle sourit. Ah, elle est belle. On dirait qu'elle est prête à courber le monde des malheurs, à marcher sur les eaux comme dans les évangiles. Ses yeux brillent. Elle dit avec son accent rigolo et en mangeant la moitié des mots en clair.
Tonino, il faut être conscient des défaites, des malheurs, des souffrances auxquelles l'humanité est exposée. Mais la pensée de la Grèce nous permet de dominer cette situation.
Dominer la situation, je comprends toujours pas, à vrai dire. Non, à vrai dire, je n'écoute pas. Je regarde sa petite langue rose. Ah, purée, qu'il fait chaud.
Cette histoire, Misty Sleeping, se passait à Baltimore et la musique que vous venez d'entendre, Les Yeux Noirs, était interprétée par le groupe Baba Yaga. Baba Yaga, à qui nous devons le générique qui introduit et clôture d'ailleurs toutes nos émissions. Eh bien, c'est le moment de vous dire au revoir à tous et toutes.
Au revoir.
Au revoir. Ha, 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 ha.